dans le monde de la mystique. Je n'ai peut-être pas dit, parce qu'on ne peut pas tout dire, que Dominique, qui a été canonisé 13 ans après sa mort, a accompli beaucoup de miracles, pas simplement après sa mort, des miracles de son vivant. Je vous ai parlé de Rocamadour et cette communication avec les pèlerins allemands alors qu'ils ne parlaient pas l'allemand. Mais Saint Dominique a ressuscité des morts, entre autres. Il a fait de nombreuses guérisons et des gens qui ont péri, donc on raconte ça dans le procès de canonisation. Voilà, ça fait la transition avec le monde de Sainte Catherine de Sienne, parce que avec Catherine, il y a tellement de choses extraordinaires dès son jeune âge, dès l'âge de 6 ans, que certaines choses, j'ai même renoncé à vous les raconter, parce que vous allez me dire, mais d'où est-ce qu'il sort ça? Voilà, il y a beaucoup de choses extraordinaires. Bon, remarquez, si vous allez regarder la vie du Padre Pio, et je prends à dessein la comparaison, la vie du Padre Pio, il y a des choses extraordinaires. Il y a, par exemple, la bilocation, sans parler des stigmates. Voilà. Donc, il y a des époques, j'allais dire, Dieu est maître de ses dons, et si le réceptacle que nous sommes, le vase que nous sommes, est disponible, comme dit Saint-Augustin dit, fais-toi capacité. Ben, si nous sommes dépouillés de nous-mêmes pour accueillir les dons de Dieu, ben, Dieu fait ce qu'il veut chez ses élus. Et je pense que c'est un peu ce qui arrive chez Catherine de Sienne. Pourquoi elle? Pourquoi cette époque? C'est une époque de grande crise spirituelle et politique, mais surtout de crise spirituelle. Et je pense que Dieu déborde de, non pas d'imagination, mais d'initiative vis-à-vis de ses enfants à chaque époque pour les réveiller. Et je pense que Catherine de Sienne est un réveil stimulant et brutal à son époque. Alors déjà, elle est la 23e des 25 enfants du couple. Pauvre maman. Donc Lapa, elle s'appelait Lapa, la mère de Catherine était sûrement une forte femme, et Giacomo, Jacques Benincas, qui était le père de Catherine. Si vous connaissez Sienne, il y en a qui ont été à Sienne ici? Oui? Oui. Alors, ça fait longtemps que je ne suis pas retourné à Sienne. Mais puisqu'on parlait de Lumus, Sienne est une ville, je dirais, raffinée. Quand vous rentrez dans la cathédrale de Sienne, vous êtes ébloui, parce que c'est toute la cathédrale est un éblouissement d'art, de beauté, de splendeur. Elle est posée là comme véritablement comme un bijou. Tout en elle est resplendissant. Et si vous êtes sur la place principale de Sienne, cette place un peu comme des degrés, comme des marches qui descendent et qui forment comme une forme ovale, je dirais, ça dit quelque chose aussi de cette femme qui est riche, incroyablement riche, de dons, de plénitude spirituelle, d'initiative, dans un monde très masculin, où Catherine de Sienne va prendre une initiative, une place absolument incroyable. Voilà, donc une famille de 25 enfants, son père teinturier et de laine, dans une famille relativement aisée. Et comme s'il n'avait pas suffisamment d'enfants, en 1384, la famille adopte un jeune enfant de 10 ans, qui s'appelle Tommaso della Fonte, orphelin à cause de la peste. C'est un lieu commun à cette époque, la peste. Et dont l'oncle, Palmiere della Fonte, était marié à la sœur aînée de Catherine. Alors pourquoi je vous parle de cet enfant adoptif? C'est parce que par la suite, il va devenir dominicain. Il va intervenir, il va partager de sa vie avec Catherine. Hein? Voilà, c'est un petit fil qui vient donner de la force à la vie de Catherine de Sienne. Donc, dès l'âge de 6 ans, elle marche avec un de ses frères, le frère Stéphane, dans les rues de Sienne, et elle voit au-dessus de l'église Saint-Dominique le Christ pontife la bénir. Et voilà, elle a une propension à la vie spirituelle, à la ferveur. On lui raconte aussi des histoires, des lectures d'histoires de saints, d'ermites ou des pères du désert, et elle cherche à les imiter. Je fais une parenthèse avec Ignace de Loyola. Lorsqu'Ignace de Loyola, après le siège de la ville de Pampelune, où il résiste vaillamment, dans une tour où ils sont quelques dizaines de vaillants chevaliers, et qu'il est blessé, qu'il y a un obus qui lui touche une jambe. Ensuite, on le porte. Les Français ont été assez loyaux, les troupes françaises qui assiégeaient Pampelune, et il va faire sa convalescence dans la propriété familiale, dans la tour. Et là, il va lire des histoires des vite saints, notamment les histoires racontées par un dominicain, Jacques de Voragine, c'est Fioretti, c'est vite saints. Alors, donc Catherine de Sienne cherche à les imiter, et l'attrait pour la vie dominicaine fait qu'elle fait un essai de rentrer dans une forme de vie dominicaine qui n'est pas la vie démoniale. Et Tommaso, ce jeune qui va rentrer dans la vie dominicaine, il favorise sa dévotion, il cherche à aider cette quasi-sœur qui est Catherine, contribuant à renforcer le désir de Catherine de se consacrer à une vie chrétienne. Vers l'âge de 7 ans, Catherine fait vœu de chasteté. Alors vous allez me dire, mais comment à 7 ans on peut faire quelque chose de conscient? Voilà tout notre baratin du 20e et 21e siècle, où il faut absolument être préparé, être conscient, etc., etc. Donc tout ça tombe par terre, là, avec le personnage de Catherine. Elle grandit, et vers l'âge de 13 ans, elle refuse toute coquetterie. Mais sa mère voulait absolument la marier, voulait qu'elle ait une vie familiale, etc. Et quelques mois plus tard, en 1362, Bonaventure, sa sœur, meurt en couche. Et Catherine est très choquée par cette mort, et elle y voit la conséquence des péchés de vanité et de coquetterie dans lesquels sa mère l'avait entraînée pour essayer de la marier à tout prix. Donc ses parents sont toujours dans cette direction, et finalement elle résiste, et il voit que Catherine est quand même décidée. Alors elle se met, voyant qu'elle ne peut pas se mobiliser dans un monastère, en tout cas dans l'immédiat, elle crée, et elle va le dire dans ses œuvres, enfin dans ses écrits, elle crée une cellule intérieure, cette intuition qu'elle va développer tout au long de sa vie. Une cellule intérieure, c'est-à-dire, comme beaucoup d'entre vous, vous ne vivez pas dans un monastère, même dans un monastère, il faut créer sa cellule intérieure. Parce que, notre couvent à Paris reçoit beaucoup de groupes, beaucoup de gens, tout le temps, et parfois, on aurait envie d'avoir un peu de calme, donc il faut aussi canaliser sa vie pour avoir cette vie intérieure. Finalement, son père, voyant sa détermination, et suite à un songe que Catherine a eu, ce songe, elle voit Saint-Dominique lui tendre un lys et un habit des sœurs dominicaines de la pénitence, lui assurant qu'elle fera partie de cette congrégation. Alors, au réveil, elle révèle à toute sa famille ce vœu, ce secret de chasteté, et donc son père, finalement, va se plier à ce vœu. Elle redouble d'ascèse, et à l'âge de 16 ans, elle cherche à vivre une vie assez extrême, à travers des jeûnes, des privations de sommeil pour prier et diverses pénitences. Évidemment, sa mère s'inquiète de la santé de sa fille, décide de l'amener faire une cure pour se reposer. Ce n'est qu'au retour de cette cure que sa mère, Lapa, se décide à demander l'intégration de sa fille parmi les sœurs de la pénitence de Saint-Dominique. Ces sœurs ne sont pas tout à fait une congrégation au sens classique, on les appelle les mantellate, parce qu'elles ont des mantelles, enfin des habits noirs en italien, et ont une origine dominicaine. C'est un groupe qui relève plutôt du tiers-ordre, comme on disait à l'époque, mais un groupe pieux essentiellement composé de veuves qui ne suivent pas au sens strict une règle religieuse, dans la mesure où elles ne font pas de vœux religieux. Elles se consacrent aux œuvres de charité, aux visites des prisonniers, des malades, et se réunissent pour la messe et pour recevoir des instructions religieuses. Catherine est présentée par sa mère, et Catherine essuie un refus, d'abord, de la part de ses femmes, qui la trouvent trop jolie, trop jeune, et... je pense aussi qu'elle est trop exaltée et immature pour la vie religieuse. Voilà. Elle tombe gravement malade, et là on pourrait faire un parallèle avec la maladie de Thérèse d'Avila. Si vous connaissez un peu son histoire, Thérèse d'Avila, elle est déjà dans le monastère du Carmel, on creuse une fosse, et au moment où on va la mettre en terre, son père, qui l'aime trop, le père de Thérèse d'Avila, dit « je ne peux pas accepter que ma fille soit... » Et après, elle sort, en quelque sorte, de cette mort et revient à la vie et au destin spirituel qu'elle va avoir. Donc, finalement, à partir de 1364, elle fait un nouvel essai et ses femmes finissent par l'accepter. Elle reçoit d'abord l'habit blanc qu'elle reçoit d'un frère qui est le maître de cette congrégation, le frère Bartholoméo. Elle fait un noviciat chez ses femmes. Elle reste silencieuse et observe de longs moments de prière dans sa chambre, sortant pour assister à la messe et aux offices. Et c'est une femme qui pleure. Elle va en parler dans son principal récit, le livre du dialogue. Voilà, le livre du dialogue, dont vous avez ici la dernière traduction française, aux éditions du Cerf. Voilà, ça vous donne un peu le volume de ce... Donc, elle va revenir sur ce don des larmes, en parlant un peu des 5 degrés des larmes, des larmes qui sont, je dirais, un peu trop humaines, trop superficielles, jusqu'au 5e don des larmes, qui sont déjà le don de l'unité, le don de l'union mystique. Cette femme a des visions, des apparitions, des colloques avec Jésus, mais aussi des moments de doute, d'angoisse, de forte tentation. Et au cours de cette période, alors qu'elle est analphabète, elle apprend à lire suffisamment pour pouvoir réciter la liturgie des heures que ces femmes disaient. Pendant le carnaval de 1368, donc des années après, Catherine a une apparition qu'elle décrit comme étant son mariage mystique avec le Christ. Alors, nous avons notamment Raymond de Capoue, qui va devenir maître général de l'ordre dominicain, qui est son confident, son confesseur. C'est notamment à travers Raymond de Capoue que nous avons le récit où Christ vient la prendre par la main, où la Vierge Marie assiste à cette scène, où la Vierge Marie lui met un anneau à la main, et qui restera invisible, mais sensible dans ses mains pour le restant de ses jours. Il y a un échange de cœur. Alors, quand je lis le récit, je me dis, mais alors, qu'est-ce qui devient son cœur? Le Christ lui enlève son cœur, il y a un échange des cœurs, et ça dure, lui enlève son cœur. Il le prend, et il revient deux jours après, et lui donne son cœur. Voilà, il donne son cœur. Donc, ces choses qui nous paraissent absolument extraordinaires arrivent dans la vie de Catherine. Elle a des extases de manière privée ou publique. Elle se raidit de temps en temps à cause de ces extases, perd connaissance. Évidemment, cela provoque des moqueries, des calomnies. Elle est accusée d'être une femme de mauvaise vie. Cette année-là, 1368, le père de Catherine, Giacomo, meurt, malgré les prières de Catherine. Et Sienne, comme bien d'autres villes italiennes, comme nous le voyons avec Assise et la ville rivale dont je ne me rappelle pas le nom, Assise et une autre ville qui est à côté. Donc là aussi, Sienne subit des problèmes graves. Cette période va marquer le début d'un engagement public intense où elle commence à rencontrer et à conseiller des dominicains, notamment par ce jeune qui avait vécu dans sa maison, Tommaso della Fonte. Elle fait la connaissance de Bartolomeo, un jeune dominicain qui lui rend visite, et cette rencontre va mettre une grande amitié spirituelle entre les deux. Bartolomeo, d'un côté, transmet à Catherine sa connaissance théologique, et elle, de son côté, lui prodigue des encouragements, et plus tard, lui envoie des lettres. Les lettres ont été publiées dans une nouvelle version française ces dernières années aux éditions du Cerf, et c'est une mine. Vous avez des lettres adressées à des laïcs, à des papes, à des évêques, à des hommes, des femmes, des religieux, des religieuses. Et là, vous avez encore un autre profil de Catherine, c'est-à-dire le don du conseil chez Catherine de Sienne. Donc, un engagement public, elle va rencontrer aussi d'autres ordres religieux, il n'y a pas que les dominicains, Lazzarino de Pise, un célèbre prédicateur franciscain, qui avait été méprisant à son égard au départ, et finalement qui lui demande des conseils pour le guider spirituellement. Elle rencontre un autre dominicain qui va prendre une place importante dans sa vie, Tommaso di Antonio di Nacci, qui est appelé Caffarini, qui va écrire une des premières biographies de Catherine à la fin de sa vie, une biographie qui va s'appeler La Légende mineure. Elle commence à voyager, sans doute avec Raymond de Capoue, Capoue C-A-P-O-U-E, qui est nommé par le pape pour prêcher la croisade. Elle va à Florence à partir de 1371 et notamment à Bologne pour rencontrer un cardinal légat de Bologne pour essayer de parler de la paix et de la réforme de l'Église et le retour du pape à Rome. Elle comparaît en 1374 devant le chapitre général de l'ordre des dominicains. Donc, elle interpelle les frères, et c'est à cette époque que Raymond de Capoue devient de manière plus effective son directeur spirituel. À la Pentecôte de cette année-là, donc 1374, elle reçoit les stigmates. Alors, il faut aussi vous dire, vous parlez ici un peu des rivalités entre ordres religieux, c'est-à-dire que les franciscains, dans l'histoire de l'Église, François est le premier en gros, il y a trois stigmatisés de manière sûre et certaine dans l'histoire de l'Église. Il y a donc Catherine de Sienne, François d'Assise. Catherine de Sienne, elle ne sera pas reconnue parce que les franciscains vont s'y opposer de manière très vive. En gros, c'est leur icône et ils disent non, non, c'est François, car François est présenté en gros comme un nouvel évangile. Donc la situation ne sera bloquée qu'à partir du début du XVIIe siècle où ces résistances tombent et à partir des récits, des différents récits, on accepte et on reconnaît, le pape reconnaît officiellement les stigmates non visibles, car Catherine avait demandé à ce que ces stigmates ne soient pas visibles. Voilà. Elle commence à prendre de manière publique la défense des intérêts du pape en s'engageant pour le retour des papes d'Avignon à Rome et pour l'unité et l'indépendance de l'Église. Du coup, Catherine va jusqu'en Avignon, puisque le pape y réside, à partir de 1376. Il passe par Bologne, il se rend sur la tombe de Saint-Dominique et rejoint la cour du pape Grégoire XI. Elle est acceptée, enfin, elle est reçue par le pape. Il fallait encore qu'elle soit reçue. Et elle va informer Florence, puisque Florence est en rébellion vis-à-vis du pape. Elle essaye de dire au pape qu'il doit développer une attitude douce, pacifique, vis-à-vis de la population et de la ville de Florence qui est en rébellion. Le pape, d'abord, il voulait utiliser la manière forte, mais d'autre part, Catherine suscite en Avignon la méfiance du fait de son influence croissante auprès du pape, mais aussi à cause de ses extases publiques. Elle est en Avignon, elle est suivie secrètement à la demande du pape par des théologiens pour l'épier, hein, comme je vous ai parlé des frères qui épient Saint-Dominique pour voir ce qui se passe dans sa prière. Alors, les théologiens épient Catherine pour l'examiner, pour voir qu'est-ce qui se passe. Et il constate, il ne reproche rien. Elle reçoit également une invitation du roi de France, Charles V, mais elle finit par repartir en Italie. Le pape quittera Avignon pour Rome en 1376. Il part en bateau, tandis que Catherine, elle part par voie terrestre. Et Catherine de Sienne va demeurer à Gênes et continue ensuite son chemin jusqu'à Rome. Elle n'est pas à Rome lorsque le pape y arrive. Elle s'installe à Sienne, où sa renommée se fait de plus en plus grande, et une propriété va être donnée à Catherine, où un monastère va être fondé, qui par ailleurs sera détruit à sa mort. Donc l'activité de Catherine de Sienne devient très intense entre Sienne, entre Florence, je vous ai parlé de Bologne, je vous ai parlé de Rome, de Avignon. Et Catherine essaye de faire œuvre de pacification pour amener notamment la paix à Florence. La ville de Florence résiste toujours. Catherine continue à lutter pour cette situation. Et pendant cette période, lorsque la fin du conflit avec Florence est plus tranquille, Catherine se retire et tombe souvent en extase, et c'est pendant ces extases qu'elle dicte les paroles qu'elle reçoit lors de ces extases. Donc, le livre que je vous ai montré, ce sont des secrétaires qui écrivent ce qu'elle est en train de dire en extase, et de même ce petit livre qui s'appelle « Les oraisons ». Alors, les oraisons, c'est sa prière. Pendant qu'elle est en prière, elle parle à haute voix avec le Christ. Ses prières s'adressent à Dieu et au Christ. Et à la dérobée, les témoins qui sont là écrivent, font du sténo, écrivent, et c'est grâce à eux que nous avons ces textes. Donc, ils ont une valeur spirituelle et historique, j'allais dire, dans un registre absolument incroyable. Parce que c'est grâce à ces témoins que nous pouvons avoir ces textes. Donc, ces dialogues, faits sous la dictée, sont mis par écrit par 5 secrétaires et seront publiés sous différents noms. Le dialogue, le traité de la divine providence ou le livre de la divine doctrine. Et quand vous y plongez, ces ouvrages sont d'une densité théologique, vous pouvez avoir matière, je dirais, pour toute votre vie, de méditer là-dedans, que ce soit le dialogue ou les oraisons, parce qu'ils ont vraiment une densité spirituelle, théologique très grande. Je vous dis quelques éléments sur sa doctrine spirituelle au travers de ses œuvres, au travers de sa vie. Qu'est-ce que nous pouvons dire sur sa doctrine spirituelle? La vie spirituelle de Catherine de Sienne nous met en face de la question de l'union à Dieu. Voilà, c'est l'axe principal de la vie de Catherine. La vie de Saint-Dominique est une vie d'union à Dieu à travers un ordre que Saint-Dominique va être amené à fonder. Catherine de Sienne, elle est propulsée par cette passion pour le Christ, et le Christ aussi sur la croix, le Christ rivé dans sa passion. Elle dit dans ses écrits que la passion du Christ est le meilleur guide pour la vie spirituelle. Elle dira « Il vaut mieux que tous les livres ». Et cela, nous le trouvons chez beaucoup de spirituels, 14e, 15e, 16e siècle. Un autre aspect auquel j'ai déjà fait allusion, c'est la cellule intérieure, c'est-à-dire l'habitation de la Trinité en l'âme. Dans ses écrits, elle développe ce que la théologie appelle l'inhabitation de Dieu en l'âme. Catherine découvre qu'elle peut vivre avec Dieu qui est présent à l'intérieur d'elle-même dans l'âme. Et donc ce lieu intérieur, c'est la cellule intérieure. Ainsi, elle dit dans une lettre à une de ses amies, la lettre 223, « Fais-toi, ma fille, deux habitations. L'une dans ta cellule, pour ne pas aller causer de tous les côtés et pour n'en sortir que par nécessité, par obéissance à la prière ou par charité. Fais-toi une autre habitation spirituelle que tu porteras toujours avec toi, c'est la cellule de la vraie connaissance de toi-même. » Donc elle va beaucoup insister sur la connaissance de soi-même. Tu y trouveras la connaissance de la bonté de Dieu à ton égard. Ce sont deux cellules dans une. Et en étant dans une, il ne faut pas quitter l'autre, car l'âme tomberait ainsi dans le trouble et la présomption. Elle affirme la nécessité d'entrer en soi-même afin d'habiter par habitude pour agir en union avec Dieu. Elle considère cette connaissance comme centrale à la vie au point d'affirmer dans le dialogue que la prière doit être fondée sur la connaissance de soi-même. Pour parvenir à se connaître soi-même, Catherine de Sienne affirme qu'il est nécessaire de rentrer en soi-même dans cette cellule intérieure et ne jamais quitter cette cellule intérieure, même quand on agit. Et cela explique chez un certain nombre de saints, et Catherine de Sienne va avoir énormément de contrariétés, d'opposition, des moqueries, j'allais dire, c'est une vie à la fois extraordinaire de vision, mais face à ces contrariétés, j'allais dire, ces contrariétés, les témoins décrivent qu'elles restent dans une grande paix. Les contrariétés sont bien là, mais cette paix, en profondeur, ne la quitte jamais. Cette habitude d'intériorité va aussi conduire Catherine à comprendre dans quelle mesure nous n'existons que grâce à Dieu. Nous devons reconnaître que nous n'avons pas l'être par nous-mêmes, mais que nous le tenons de Dieu. Ainsi, dans le dialogue, il y a une expression, et c'est intéressant, les ponts avec la période contemporaine. Actuellement, je prépare l'édition. Je prépare l'édition avec un groupe de femmes, une femme qui ne vous est peut-être pas familière, Marguerite Auplon, la fondatrice du mouvement Sève, qui a vécu à Paris, qui est morte il y a quelques années. Alors, nous allons publier à l'automne prochain le premier volume de son journal spirituel, qui doit apparaître aux éditions du Sève. Et enchâssé dans les écrits de cette femme, tout d'un coup apparaît une citation de Catherine de Sienne. À l'intérieur, enfin, elle, Marguerite Auplon, cette femme, avait tellement assimilé, visiblement, la doctrine de Catherine de Sienne qu'elle le cite de mémoire. Voilà. Et la semaine dernière, j'étais là en train de regarder dans le dialogue où se trouvait exactement cette citation, où, dans ce dialogue, c'est-à-dire le dialogue de Catherine avec le Christ et avec Dieu, Dieu lui dit tu es celle qui n'est pas, je suis celui qui suis, en faisant aussi référence au livre de l'Exode, lorsque Moïse dit mais qu'est-ce que je dois faire, demander à Dieu, lorsque Pharaon va me demander, il dira que je suis celui qui suis. Donc, voyez la circulation et les points de contact entre l'Ancien et le Nouveau Testament, et ensuite dans la spiritualité, comme les différentes époques sont irriguées par des auteurs spirituels. Là, c'est une irrigation contemporaine que j'ai vue et que j'ai identifiée quand j'ai vu cette phrase. Je me suis dit, mais ça vient de Catherine de Sienne, c'est évident. Donc, dans le dialogue, Dieu lui dit « Je veux bien que tu vois ton néant, ta négligence, ton ignorance, mais je veux que tu les vois non dans les ténèbres de la confusion, mais à la lumière de la bonté divine que tu trouves en toi. Apprends que le démon ne veut que vous arrêter à la connaissance de vos misères. Tandis que la connaissance doit toujours être accompagnée de l'espérance de la miséricorde divine. » Là, je pense que c'est un point très important dans la vie spirituelle. Parce que je pense qu'il y a des gens qui, lorsqu'ils cheminent dans la connaissance d'eux-mêmes, ils vont découvrir les abîmes, même trop d'abîmes. Et si je fais un parallèle ou un point de contact avec la psychanalyse, les personnes qui se mettent en analyse, l'analyse, il faut la faire avec quelqu'un. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui conduise. Et j'ai une amie psychanalyste qui, par ailleurs, est juive, et donc elle n'habite pas à Paris. Et de temps en temps, on se parle, et donc elle reçoit énormément de gens parce qu'elle est. C'est une femme qui a une qualité d'écoute exceptionnelle. Et elle dit toujours, enfin, de temps en temps, elle va faire une supervision. Une supervision, parce qu'elle reçoit tellement de choses. Il faut qu'elle se rééquilibre dans son travail d'écoute. Voilà. Donc, dans le dialogue, qui nous transporte jusqu'à la psychanalyse, dans le dialogue, Dieu lui dit, voilà, je veux bien que tu vois ton néant, ta négligence, mais je veux que tu les vois non dans les ténèbres, mais à la lumière de la bonté divine. Parce que sans cette bonté divine, sans cette miséricorde, on perd pied et on rentre vraiment dans le désespoir et dans le néant. La connaissance de soi-même est donc profondément unie à la connaissance de Dieu, à une connaissance en soi de Dieu et au regard de Dieu. Et le chemin de cette connaissance de soi-même est fait, et c'est ce qu'elle invite aussi, d'une vie de vertu, de patience, d'humilité, afin de fuir le péché et de s'unir plus à Dieu. Cette recherche de vertu est difficile, évidemment, et demande de prendre le chemin de la croix. Rien de nouveau sous le ciel. L'existence de tentation est présente, ce qu'elle appelle une descente aux enfers. Le moyen d'y résister est de revenir dans cette connaissance de soi-même. Ensuite, un autre axe de sa doctrine, évidemment, la réforme de l'Église, la vie de Catherine est peut-être plus que d'autres auteurs spirituels, est profondément marquée à cause de son époque, mais à cause de son intervention, par la volonté de rénovation de l'Église. Sa conception qu'elle se fait de l'Église n'est pas révolutionnaire, mais elle souligne surtout la crise spirituelle dans l'Église. Elle considère que l'Église est l'épouse du Christ et, dans cette vision, dans cette manière de voir, elle va insister sur le sang de l'agneau. Alors, je vous mets donc, entre guillemets, en garde, parce qu'il y a des gens qui se bloquent à la lecture de Catherine de Sienne, parce qu'elle insiste beaucoup sur le sang du Christ, ou le sang de l'agneau. Alors, il faut comprendre cette insistance sur le sang dans cette compréhension du mystère de la rédemption et dans cette perspective de la rénovation à laquelle elle appelle. Elle regarde la situation scandaleuse des papes en exil en Avignon et les divisions, et elle affirme dans sa correspondance avec le pape que les problèmes ne sont pas extérieurs à l'Église, mais qu'une grande source des problèmes vient de l'intérieur de l'Église. Alors, je ne sais pas si ça vous fait penser à quelqu'un qui a dit ça ces dernières années. Elle considère que les problèmes de l'Église viennent de ses membres qui sont remplis d'amour propre, d'impureté et d'excès d'orgueil. Elle-même prend sa part de responsabilité vis-à-vis de tes péchés et des problèmes au sein de l'Église. Ainsi, le manque de foi, de vertu des prêtres ou des cardinaux est pour Catherine une des principales difficultés de l'Église. Elle n'hésite pas à écrire au pape Urbain VI, lui recommandant de mener une guerre contre les péchés et les siens aussi, plutôt que de tout autre type de guerre. Donc, le diagnostic qu'elle pose est, au sein de l'Église, est vraiment une crise spirituelle, mais elle voit aussi cela comme une opportunité pour l'Église de retrouver sa nature primitive. Elle appelle ainsi cette Église primitive, en écrivant au pape Grégoire XI, « Lorsque les ministres ne songeaient qu'à l'honneur de Dieu et le salut des âmes, s'appliquant aux choses spirituelles et non pas aux choses temporelles. » Elle recommande même au pape Urbain VI de s'entourer d'un conseil des saints, S-A-I-N-T, composé de personnes vertueuses, affirmant « Votre autorité s'étend à tout, mais votre vue est bornée comme celle de tout homme. » Est-ce que vous mesurez l'audace de cette femme au XIVe siècle, en pleine crise, disant ça au pape? Voilà. Donc, elle invite le pape à une lutte virile pour l'Église. C'est un terme qu'elle emploie à plusieurs reprises. Voilà, qu'il y ait une virilité dans les combats spirituels. Jetez loin de vous toute tendresse pour vous-même et toute crainte servile, car la douce Église n'a pas besoin de tels gens, mais de personnes cruelles à elle-même et compatissantes pour elle. Et elle voit dans l'arrivée des nouveaux convertis, notamment les infidèles, une source de rénovation ceux-ci étant à même de lutter par leur futur exemple contre le vice et le péché qui règnent dans l'Église. Et là, on pourrait faire une analyse avec notre situation d'aujourd'hui quand on parle de l'accueil des catéchumènes qui, ces dernières années, ont augmenté dans la plupart des diocèses. Hein? Qu'est-ce que les catéchumènes apportent comme questionnement, comme problème d'accueil au sein de nos paroisses et au sein de nos communautés? Pour dire encore un mot sur le sang de l'agneau, donc une dévotion que Catherine développe avec, à la suite aussi d'autres mystiques chrétiens. Le sang, c'est le sang du Christ versé sur la croix et le fait que le Christ, par son sang, rachète le péché. Pour Catherine de Sienne, le sang devient une preuve du rachat des fautes par le Christ. Nous n'avons pas été rachetés à prix d'or, ni même par l'amour seulement, mais par le sang. Le péché nécessite une réparation, pour Catherine de Sienne, parce que c'est une offense faite à Dieu. Or, aucune réparation ne peut être à la hauteur de l'offense qui est faite à Dieu. Le sang du Christ représente donc pour Catherine de Sienne le salut pour les pécheurs. Ce salut est donné à chacun afin de le sauver du péché. Et le sang versé représente la justice de Dieu et le salut donné par amour par Dieu, comme elle va l'écrire dans le dialogue. Ainsi, elle dit: avec l'amour et le zèle de la sainte justice, parce que le regard de son intelligence est fixé sur la sagesse du Fils de Dieu, où elle voit abonder la justice au point que pour ne pas laisser la faute impunie, il a expié dans son humanité. Donc ce sang représente l'amour de Dieu qui meurt par amour et pour nous sauver. Et ainsi elle écrit: « Je suis le voleur et tu t'es pendu à ma place. » Un autre point qu'on a traité comme c'est la doctrine du pont. La doctrine du pont. Il s'agit de quoi? C'est l'accent sur le Christ, la manière dont elle présente le Christ dans le dialogue. Catherine décrit l'importance du Christ comme un pont qui permet de traverser un fleuve où tout le monde est en train de se noyer. Ce fleuve empêche d'accéder à l'autre rive, celle qui est décrite alors comme le paradis, le lieu de l'union à Dieu. Et j'ouvre une petite parenthèse. Thérèse d'Avila, lorsqu'elle fait ses fondations, vous lisez ce récit dans les fondations, un jour, le Douro, ou un autre fleuve, il regorge d'eau, et elle est sur une carrosse, elle va peut-être en Andalousie fonder une communauté, et donc elle a failli être engloutie, son carrosse, voilà. Donc elle décrit avec beaucoup de réalisme les difficultés des fondations et le fait qu'elle a failli être engloutie dans cette rivière ou dans ce fleuve qui regorgeait d'eau. Donc le Christ ici est vraiment le pont qui nous permet de traverser ce fleuve dangereux. Le pont qui permet de traverser ce fleuve est le Christ avec trois marches. Ces trois marches représentent les trois étapes de la vie chrétienne, mais aussi les principales plaies du Christ en croix. Les pieds sont les premières marches du pont, mais ils représentent le désir de Dieu qui conduit l'âme à vouloir connaître et mieux aimer Dieu. Ensuite, deuxième marche du pont est le cœur du Christ. Et les jésuites, dans l'article du dictionnaire de spiritualité que je suis allé regarder, c'est intéressant, parce que le dictionnaire de spiritualité aux éditions Rochelle a été dirigé par les jésuites. Et alors, il y a tout un laïus sur le cœur du Christ chez Catherine de Sienne. Parce qu'elle en parle dans le dialogue. Donc Marguerite Alacoque, au XVIIe siècle, elle a eu ses visions qui sont importantes et qui sont très belles. Et donc les jésuites soulignent la doctrine du cœur de Jésus chez Catherine de Sienne. Alors les dominicains apparemment n'ont pas valorisé, ils auraient pu, entre guillemets, utiliser ce filon. C'est intéressant. Les axes qui sont donnés par des ordres religieux à telle ou telle époque, voilà, les jésuites, de par leur spiritualité, avec Saint Claude de la Colombière à Barémonial et Marguerite à la Coque, mais Catherine de Sienne, elle développe cela dans cette doctrine du pont. Donc la deuxième marche est le cœur du Christ, lieu de l'union à Dieu et de la connaissance de soi et de Dieu. Donc je vous ai parlé des pieds, du cœur, il reste encore un troisième élément. La dernière marche est la bouche du Christ, symbole de l'union à Dieu et de la paix intérieure. Donc, le pont pour Catherine n'est accessible qu'à travers la connaissance de soi, la pratique des vertus, mais aussi la miséricorde de Dieu. Vous êtes déjà presque épuisés. Je termine encore avec deux, trois éléments. Je vous ai fait allusion tout à l'heure au don des larmes. Alors, il y a des gens dans la vie spirituelle qui sont complexés, peut-être il y en a dans cette paroisse, je ne sais pas. Je lance des gens qui ont qui pleurent facilement, qui pleurent. Alors, je ne veux pas du tout me comparer à Catherine de Sienne, hein, du tout. Mais quand j'étais plus jeune, je vivais encore dans ma ville natale, je pleurais facilement quand je voyais des funérailles. Alors il y avait une dame, une amie de maman, qui avait dit à votre fils qu'il ne peut pas être prêtre. Non, non, comment il va célébrer des funérailles? Parce qu'effectivement, je voyais des gens affligés et je me mettais à pleurer, des gens qui n'avaient rien à voir avec ma famille, donc je pleurais. Et voyez ces paroles qu'on peut dire. Ces paroles sont restées dans ma mémoire pendant des décennies. Ensuite, j'ai été curé au Brésil pendant 4 ans, et là, fort heureusement, je n'avais pas tellement à célébrer des funérailles. Parce que, comme c'est une ville immense, on va au cimetière, et là, il y a un prêtre qui bénit à tour de bras les corps qui arrivent. Donc, je célébrais que des messes des 7e jour. Alors ça, j'en ai célébré pour le restant de mes jours. Bon, mais voilà que de 2012 à 2016, j'étais à Lyon, et là j'étais curé de la paroisse des frères. Et là, je ne pouvais plus reculer. Et je me souviens, au cours de ces décennies, j'avais quand même célébré quelques funérailles. Mais lorsqu'on est curé, c'est une toute autre chose qu'on a des funérailles régulièrement. Je me souviens des premières funérailles. Je crois que les premières, deuxièmes, je pleurais toujours parce que j'essayais de cacher mes larmes comme je pouvais, mais c'était difficile. Alors, bon, j'ai demandé la grâce, je me suis dit, bon, comme on dit, la grâce d'État, et je crois que j'ai pu célébrer en paix ces funérailles sans trop pleurer. Voilà. Donc, Dieu donne sa grâce. Mais parfois, vous voyez, on peut mettre quelqu'un dans une boîte. Tu ne seras pas ceci, tu ne seras pas cela, parce que tu as une fragilité de tel ordre, voilà. Donc, j'ai pu célébrer des funérailles et les vivre paisiblement. Donc, le don des larmes, c'est cet enseignement développé toujours dans le livre du dialogue, au chapitre 88 à 97. C'est-à-dire la valeur spirituelle des larmes et leurs fruits respectifs. On n'est pas là simplement dans un registre d'émotion, mais un registre spirituel et théologique. Catherine de Sienne va donc parler de 5 sources de larmes qui n'ont pas la même valeur spirituelle. Ces larmes dont elle parle sont des larmes qui procèdent du cœur. Elles ne procèdent pas simplement de... Voilà. Les premières sont celles qui découlent de l'amour sensuel et de l'attachement aux choses matérielles et au plaisir. Donc elles n'ont pas pour Catherine de valeur spirituelle car elles proviennent de l'amour propre. Le deuxième type de larmes est celles qui sont le fruit de la peur, du péché et de l'enfer. Elles sont imparfaites car sont encore trop liées à l'amour. Elles ont néanmoins une valeur spirituelle. Troisième source des larmes vient des personnes qui pleurent tout en commençant à aimer la douce vérité. La douce vérité, c'est une expression très catherinienne. La douce vérité première de Dieu, mais qui continue d'avoir de l'amour propre. Le quatrième type de larmes sont celles qui proviennent de la charité pour le prochain. Ceux qui pleurent en aimant Dieu sans égard pour eux, elles ont une grande valeur spirituelle puisqu'elles n'ont pour source que l'amour et la compassion du prochain. Et on arrive à la cinquième source des larmes, qui sont des larmes de douceur, fruit de l'union et de la connaissance de Dieu. Ces pleurs sont le fruit de l'union à Dieu, dans la mesure où l'union entre l'âme et Dieu est telle qu'elle conduit à ne plus pouvoir se communiquer par les mots. Les larmes deviennent l'ultime langage, elle fait alors parler Dieu pour décrire la valeur du sentiment dont provient ces larmes. Elle écrit ceci. Alors, le sentiment qui suit l'intelligence s'unit avec un tel parfait et très ardent amour, et si quelqu'un me demandait qui est cette âme, je dirais un autre moi, elle est faite pour une union d'amour, quelle langue pourra décrire l'excellence de cet ultime état unitif. Voilà. Nous sommes donc au XIVe siècle. On pourrait faire un parallèle avec l'école du Carmel, avec un autre langage, à savoir la montée du Carmel Saint-Jean de la Croix, les différentes étapes de purification passive, active, la nuit des sens, la nuit. Voilà. Et chez Thérèse d'Avila, lorsqu'elle parle dans la montagne du Carmel, dans le château intérieur, et qu'elle parle des demeures, les différentes demeures où l'âme est introduite, jusqu'à entrer, comme le dira Jean de la Croix, dans le cellier de l'époux. Alors, je termine. Je vous ai parlé des stigmates. Et je termine en parlant simplement quelle est la place de Catherine de Sienne, puisque nous sommes un peu sous le sceau de Saint-Dominique, la place de Catherine dans l'ordre dominicain. En général, quand vous allez dans beaucoup d'églises, en France par exemple, vous avez Catherine de Sienne et Saint-Dominique, hein, avec le rosaire et la Vierge. Et quelqu'un, à juste titre, ce matin m'a dit, mais frère, vous n'avez pas parlé de la Vierge Marie et Saint-Dominique. Alors, la Vierge Marie, je parle un peu des actes plus objectifs, et peut-être fort heureusement, Saint-Dominique n'a pas laissé d'écrire. On a juste un ou deux contrats de donation, et c'est à peu près une ou deux lettres, c'est à peu près tout ce que nous avons de Saint-Dominique. Saint-Dominique n'a pas laissé d'écrire. Et donc Saint-Dominique qui vit au fin du 12e, début du 13e, là nous sommes au 14e, et voilà, de manière anachronique, Catherine et Dominique sont côte à côte représentés avec la Vierge au milieu et le rosaire. Tant et si bien que le rosaire est toujours collé à Saint-Dominique. Il y a un témoin qui s'appelle le bienheureux Réginald d'Orléans, qui a été enterré à Paris, et Réginald se trouvait malade, donc contemporain de Saint-Dominique, il se trouvait malade et on fait appel à l'intercession de la Vierge Marie, et la Vierge Marie elle-même vient pour guérir Réginald. Et à partir de cette histoire, de cet épisode, on introduit dans l'ordre dominicain, donc du temps de Saint-Dominique, une prière, le salvé, ce que nous appelons le consalvé, avec une mélodie que nous avons conservée, jusqu'à aujourd'hui, on chante le soir le salvé pour recommander à l'ordre, enfin, la communauté, à l'intercession de la Vierge Marie. Mais la tradition du rosaire, elle est bien postérieure. D'une part, le rosaire tire ses origines déjà de la tradition des monastères bénédictins et surtout cisterciens, avec les frères laïcs, c'est-à-dire les frères laïcs, qui, étant éloignés du monastère, de l'église, pour des travaux, lorsqu'on venait défricher, donc ces frères ne pouvaient pas dire l'office. Alors, on a introduit donc de dire des aveux. Le bienheureux dominicain Alain de la Roche, au XIVe, un dominicain breton, au XIVe siècle, va développer cette méditation et cette divulgation. Donc c'est grâce au bienheureux Alain de la Roche que ça va prendre une ampleur, mais avec, j'allais dire, avec tout cet enracinement dans la tradition dominicaine, dans la tradition cistercienne, puisque c'est Saint Bernard de Clairvaux qui va introduire dans la prière même du Salvé, O Clemens, voilà, cette dernière invocation. Donc, Catherine de Sienne, elle va devenir, de par sa place, de par ses écrits et son expérience spirituelle, la figure féminine, comme Claire d'Assise va prendre une place essentielle auprès de François d'Assise, sauf que Claire, elle vit à la même période que François d'Assise. Donc, elle va prendre une place essentielle dans notre tradition, de par son axe théologique, son axe spirituel et la place aussi de la rénovation, puisque dans le dialogue, elle dit des choses très belles à propos de l'ordre dominicain en disant voilà, l'ordre est un jardin, etc. Elle dit des choses très belles, mais elle dit mais vous avez fait ceci, vous avez fait cela, c'est-à-dire faisant des reproches aux frères au XIVe siècle. Voilà, donc d'où la place essentielle que Catherine de Sienne va occuper chez nous.